Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Lucille Como, Emmanuel Dupuis et Charles Ardenne pour parler ensemble de Don Giovanni, de Mozart et de la Ponte, dirigé par Philippe Jordan, mise en scène Ivo Vanov, c'est à l'Opéra de Paris. Madame Favart de Jacques Offenbach, direction Laurent Capellone, mise en scène Anne Kessler à l'Opéra Comique. Barbe Bleue, Offenbach encore, direction Michele Spotti, mise en scène Laurent Pelli à l'Opéra de Lyon. Et puis en fin d'émission, comme nous l'avons fait hier pour le théâtre, nous vous donnerons aussi quelques conseils d'opéra à voir cet été dans les différents festivals. Et nous ouvrons cette dispute avec Don Giovanni, donc à l'Opéra de Paris, dans son Palais Garnier, l'un des plus grands opéras, par l'un des plus grands metteurs en scène de notre époque, par un chef d'orchestre mozartien. Il y avait forcément de l'attente pour ce Don Giovanni, dont le rôle-titre est chanté par le jeune baryton canadien Étienne Dupuis. Notez d'ailleurs que cet opéra est disponible en replay sur le site de France Télévisions jusqu'au 19 décembre prochain. C'est dans une réalisation de Don Kent. Donc cette mise en scène qui succédait à la précédente production de l'Opéra de Paris, qui était celle de Michael Haneke, qu'on a, il est vrai, vu, je pense, 4 ou 5 fois, revenir. Donc c'est quand même toujours un événement qu'une nouvelle production de Don Giovanni. Une première impression rapide et synthétique sur cette production, Lucille Como.
Eh bien, c'est la première fois que je m'ennuie devant un Don Giovanni et je crois qu'il faut le faire quand même. Et
Emmanuel Dupuis ?
Moi, je trouvais que c'était un spectacle qui a des qualités, mais qui a quand même aussi un gros défaut, enfin plusieurs gros défauts, mais le principal défaut, c'est qu'il ne nous fait pas oublier la production de Michael Haneke, dont il n'a pas la force.
Et enfin, Charles Ardenne.
Moi, je ne me suis pas ennuyé. J'ai oublié la production d'avant, pendant que j'étais dans le spectacle, en tout cas. J'ai bien aimé le côté cruel et sombre, désenchanté. Certes, ça déchante un petit peu.
Alors justement, le côté sombre, il passe notamment par cette scénographie signée comme habituellement pour les productions d'Ivo Vanov, que ce soit à l'opéra ou au théâtre, de Jan Versveveld. Lucille Como, vous pouvez nous décrire ce décor ?
Oui, alors quand on entre dans le Palais Garnier, le rideau est ouvert sur une scène assez occupée par plusieurs modules, je crois qu'il y en a 3, très architecturaux, très découpés, gris béton. On est entre les immeubles pas finis d'une Europe du Sud où c'est un peu à l'abandon, une architecture pas totalement terminée, et le palais vénitien ou florentin, parce qu'il y a certaines fenêtres qui ont des formes de voûtes romanes. Il y a, comme très souvent chez Ivo Vanov, une scène qui est en pente douce vers la fosse. Il a déjà fait ça dans son précédent opéra à Bastille. Dans les immeubles, il y a plusieurs coursives, des escaliers, il y a quelques recoins, quelques portes, les personnages circulent dans les hauteurs. La lumière est toujours assez nocturne, bon, sauf à la fin, très froide. Et puis, ça bouge assez peu. Il y a un moment où les modules bougent, il y a un retournement spectaculaire qu'on va pas décrire à la fin, et il y a une utilisation de la vidéo, et sinon les costumes sont contemporains, disons. Il y a quand même à l'acte 2, au moment de la grande fête, l'utilisation de mannequins qui sont eux en costume d'époque, très fastueux, et très coloré, oui, très brillant, ouais, et masqué, voilà, comme c'est le bal masqué. Voilà, mais sinon c'est très à minima.
Mais pas mal de fumée, mais là aussi un petit peu petite de fumée, mais présente assez
très
régulièrement. Commencez pas, Lucille. Pas de commentaires, c'était description. De la même façon qu'Emmanuel Dupuis va nous donner un peu ce qu'il a ressenti, lui, comme parti pris de mise en scène d'Ivo Vanov.
Alors, Ivo Vanov, comme l'a expliqué Lucille, situe Don Giovanni dans une cité moderne, une cité déshumanisée aussi, où il n'y a pas beaucoup de vie. Et il fait aussi de Don Giovanni un personnage déshumanisé, désenchanté. C'est un prédateur moderne, mais la dimension érotique est la plupart du temps évacuée. On voit très peu Don Giovanni dans des situations suggestives, par exemple. Et les rapports entre les personnages sont plutôt vus en termes de domination, soumission. Don Giovanni est un prédateur, mais il est donc surtout un dominant. C'est, à mon sens, ce qui fait l'originalité de cette lecture.
Ben voilà pour des descriptions. Alors peut-être commencer par celui qui donnait sa synthèse la plus positive. Enfin, je ne me suis pas encore exprimé, ce que je ferai dans un instant. Charles Ardenne, alors, pour rentrer vraiment dans la dispute.
Oui, ben, tout à fait. Par rapport à ce qu'ont dit mes deux camarades précédemment, en les écoutant, je me suis rappelé pourquoi ce spectacle m'avait intéressé. Dans ce qui est décrit là, d'un caractère froid, glacial, sombre, ça donne une violence à ce personnage, à ce spectacle. Ça donne des interactions entre notamment Don Giovanni et Leporello qui sont d'une complexité qui, moi, m'ont vraiment fasciné. J'étais haletant devant ces liens de maître-esclave. Il y a quand même un lien sensuel qu'on perçoit, mais tout est dans la violence. Évidemment, ça m'a pris du temps pour un peu franchir le Rubicon et me dire, ok, je suis face à une version qui réduit, entre guillemets, Don Giovanni à ça, qui réduit Don Giovanni à... On y voit même un mafieux avec son pistolet qui violente tout le monde, qui est tout le temps sombre, qui se cache tout le temps dans les raccoins d'obscurité du plateau qu'a décrit Lucille. Et à partir du moment où on se dit on n'aura pas le Don Giovanni des Lumières, parce que c'est aussi un homme libre face à Dieu, c'est aussi quelqu'un qui veut jouir, bon tout ça certes on l'a pas, mais si on se dit d'accord, c'est concentré sur ce point noir, c'est concentré sur cet homme qui domine tout son environnement, qui maîtrise, qui méprise, qui a une violence, qui fouette, qui menace, qui à partir de là, moi je suis vraiment rentré dans notamment le jeu d'acteur, parce qu'il faut dire à quel point ces interprètes sont bien dirigés avec intention. Cité.
Heureusement que vous ne regardez pas Lucille Gaumont pendant que vous parlez. Pourtant, la reine de la mimique, vous cachez un peu derrière votre frange, mais je vous vois, Lucille. À quel point vous n'êtes pas d'accord avec ce que vient de dire Charles Ardenne.
Non, mais j'aurais vraiment aimé voir ce que vous avez vu, parce que moi, j'ai vu, à mon avis, une mise en scène extrêmement paresseuse. Je pense qu'Ivo Voneuf fait beaucoup de choses et qu'il n'a plus le temps de travailler autant sur les textes et sur les œuvres. En l'occurrence, ce que vous décrivez, je le vois par toutes petites touches, et pour moi, ce sont déjà des clichés de la mise en scène de Don Giovanni, c'est-à-dire le rapport un peu érotique entre par exemple le Porello et Don Giovanni, c'est effleuré. La question de la domination sociale, elle est en effet à toutes petites touches, parfois suggérée dans les rapports, par exemple, entre les villageois autour de Mazzetto et Don Giovanni. Et en effet, cette espèce de truc un peu italien des années 60, par exemple, qui peut être un peu cinématographique. Mais à chaque fois, ce sont des toutes petites choses et elles entrent presque en conflit les unes avec les autres. Les personnages féminins, à mon avis, sont tout à fait sous-exploités, sont vraiment des personnages de victimes, notamment Elvira, alors que c'est un des personnages les plus complexes de l'œuvre, à mon avis, des opéras de Mozart. Moi, j'ai l'impression qu'il a pioché dans un peu tout ce qu'on a vu dernièrement, y compris chez Haneke, de la mise en scène de Don Giovanni, et qu'il en a fait quelque chose qui se tient, mais qui est quand même pas très intéressant. Il parle d'un biais dans le livret, un peu un biais psychologique. Même ce biais-là, il n'est pas très utilisé. Donc, on sent qu'il y a des rapports de domination. La question sociale, elle est presque évacuée. La question psychologique et érotique, elle l'est aussi. Moi, ça ne m'a pas intéressé du tout, et je parle même pas de la fin, qui, à mon avis, rabat totalement le sens de toute l'œuvre sur une interprétation extrêmement simpliste du cœur final, qui n'est pas la morale de Don Giovanni. C'est plus possible de faire ça, quand même.
Emmanuel Dupuis.
Bon, moi d'abord j'étais assez gêné quand même par ce décor unique, tout gris et assez massif qui enferme l'action et qui accentue ce côté désenchanté dont on a déjà beaucoup parlé. Le fait que la dimension érotique soit à peine suggérée, je trouve ça quand même un petit peu excessif. Il s'agit quand même du mythe de Don Juan. Après. C'est vrai qu'il y a des choses assez fines dans la direction d'acteurs, notamment pendant les récitatifs qui sont traités comme de vrais moments de théâtre, ce qui est quand même assez rare pour le souligner. Ensuite, bon, c'est vrai que les rapports entre les personnages sont souvent intéressants, notamment, comme l'a dit Charles, la relation entre Don Giovanni et Leporello, avec ce qui est à la fois une relation gemellaire et une relation toujours conflictuelle.
On a vu ça 50 fois, voilà, les mêmes costumes.
Ça n'a rien d'original, finalement. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Après, moi j'ai trouvé la scène du souper quand le commandeur revient assez intéressante, puisqu'à ce moment-là effectivement le décor se retourne et se referme plutôt comme un tombeau sur les protagonistes et à la fin des vidéos de corps grouillants sont projetées sur les murs. C'est le seul moment de la soirée où Yves Vonov utilise la vidéo, Dieu merci, peut-être. Par contre, effectivement, je rejoins tout à fait Lucille sur l'image finale. Moi, j'ai trouvé ça carrément cucu la praline, passez-moi l'expression. C'est contestable. C'est contestable parce que ça va à l'encontre de ce que dit le livret, de ce que disent les personnages à ce moment-là. Et puis, c'est tellement ridicule que ça ruine tout ce qu'on a vu auparavant.
Alors, sur la toute fin, je vous rejoindrai assez. Moi, j'ai été longtemps gêné par ce décor qui fait aussi, on l'a peut-être pas suffisamment dit, donc tout en escalier. Donc, on pense à la fois à Piranèse, mais à Quirico aussi pour ses formes assez pures. C'est qu'ils sont, pour l'essentiel, il y a un triangle de jeu quasiment forcément ils se succèdent les uns et les autres pour chanter leurs airs, donc ça donne quand même pas beaucoup de lignes de fuite ou d'horizon dans ce décor. Bon, en même temps c'est assez voulu. Moi, au deuxième acte, quand même, j'étais surpris par le fait qu'il bouge sans que je m'en rende compte, parce que quand même il n'arrête pas de bouger ce décor, et je me dis mais il était pas, enfin c'était pas comme ça, on change d'angle, enfin il y a quand même quelque chose d'assez réussi. Moi j'ai beaucoup aimé la vidéo que vous avez évoquée, et sur les idées, alors bien sûr que peut-être nous, spectateurs chanceux, on a vu beaucoup de productions de Don Giovanni, on a vu souvent, donc, mais reprendre des choses qu'on a vues ailleurs, je pense pas que ce soit une critique complètement opérante, si vous voulez, mais même si on attend beaucoup d'Ivo Vano, mais je trouve que le traitement du commandeur, qui est quand même le grand casse-gueule de tout Don Giovanni, moi j'ai trouvé d'une grande simplicité, certes, mais d'une grande efficacité, et rien que pour ça, et la scène en effet du souper et du pré-souper, c'est quand même là que la plupart se ratent, et c'est peut-être là aussi que Yves Vano a peut-être le plus travaillé. Lucille Comeau.
Non, moi, pour moi, le personnage vraiment casse-gueule, c'est Elvira. Je trouve que c'est vraiment son premier air et la manière dont elle apparaît sur scène, pour moi, c'est le signe. Donc Elvira, qui est l'épouse déçue, qui le poursuit, qui est le personnage le plus intéressant, parce qu'elle oscille en permanence entre la condamnation, l'envie d'écarter les autres jeunes filles du chemin de Don Giovanni et la pitié. Là, je trouve que c'est aplati. Et c'est dommage, parce que Vonov, on le voit au théâtre, le rapport homme-femme, il arrive des fois à construire des formes de rapport de force avec, pour le coup, de la cruauté et du désenchantement à un point presque critique, enfin, qui produit vraiment de l'émotion chez le spectateur. Là, c'est complètement sous-exploité. C'est pour ça que je me dis, mais il y a presque... Je peux pas penser à autre chose qu'un manque d'attention à l'œuvre ou un manque de travail, parce qu'il y a une matière pour lui qui, à mon avis, est passionnante. Et là, on la retrouve pas, quoi, cette matière-là.
Un mot encore avant quand même de parler de musique, Charles Ardenne.
Oui, rapidement, en un mot, pour dire que selon moi, c'est justement, je pense, l'intérêt de cette mise en scène, et ce qu'a voulu faire Vonov, c'est montrer que Don Giovanni et aussi Leporello sont doubles, écrasent tout, ils écrasent tous les autres. C'est pour ça que les autres personnages, ils sont en effet juste là, ils viennent, ils repartent, ils s'allongent par terre. Au début, en effet, je me suis dit, bon, je souffre, je m'allonge par terre, je me tords de douleur, qu'est-ce que c'est niais et limité. Mais en fait, c'est parce que Vonov, il sacrifie aussi ses personnages, sacrifie tout le monde dans ce décor qui broie, en fait, s'il tourne, c'est un mortier. Et la scène finale, c'est ironique, c'est évidemment c'est du méta, c'est pour dire, bon, bah, vous la voulez, votre happy end, vous voulez vos couleurs, vous voulez tout ça, voilà, je vous la donne, c'est pareil, la scène de bal, je vous mets des mannequins, et puis voilà, vous êtes content.
C'est vrai qu'il a réduit dans Giovanni.
Vous trouvez qu'il existe, lui, comme personnage?
Il est mu par une compulsivité, voilà. Oui, mais c'est quand même aussi ça. Dans Giovanni, mais il faudrait quand même qu'on parle de musique, il est déjà 19h17, les amis. Écoutons quand même un extrait de cette production.
Vieni il mio bene.
fait avec l'extrait qu'on nous a fourni. Nous ne choisissons pas de le couper à ce moment, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on nous a donné. Emmanuel Dupuis, je crois que ce qu'on vient d'entendre est assez parlant, si je puis dire.
Oui, enfin là c'est vraiment excessif parce que par moment, quand même, par moment il y a quand même un certain mouvement dans la direction musicale de Philippe Jordan. Mais là, dans ce qu'on vient d'entendre, le mouvement, on le cherche. Et, bon, ceci étant, ce qu'on ne peut pas lui enlever à Philippe Jordan, c'est quand même toujours une certaine élégance, un sens de la forme, du phrasé, ça c'est certain, mais souvent aussi un côté empesé, un côté un peu trop lissé, notamment les articulations sont très peu marquées. En réalité, c'est un Don Giovanni romantisé à l'excès. En fait, tout se passe comme si Philippe Jordan ignorait tout ce qui s'est passé depuis 40 ans dans l'interprétation des opéras de Mozart, et il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé Arnoncourt, il s'est passé René Jacobs, il s'est passé Théodore Rurensis aussi. et voilà. Et y a un côté solennel, en fait, dans cette direction musicale qui met la partition à distance. Et finalement, de la même manière que la mise en scène met l'œuvre à distance aussi, met une certaine distance entre les personnages. Donc c'est un peu problématique.
Charles Ardenne.
Moi, à l'inverse, franchement, elle m'a beaucoup plu cette direction. Encore une fois, en prenant le petit temps nécessaire à comprendre ce qui était en train de se passer, bien sûr, quand l'ouverture commence extrêmement lente, très très lente, il faut un peu de temps pour s'acclimater.
Moi, il y a le temps.
Il a fallu un peu de temps aussi à tout m'arranger pour arrêter de faire semblant de diriger pour aller plus vite, ce qui ne sert à rien.
Il y avait Lucille Gaumont dans votre rangée.
Bah, vous avez entraîné absolument
tout le monde. Moi, elle n'était pas si lente, hein, d'ailleurs. Moi, enfin, moins lente que celle de Sylvain Cambrelin, époque de...
C'est pas forcément la référence.
Non, mais c'est pour dire. Non, c'était pas tellement ça qui m'a gêné, mais je vous laisse poursuivre, pardon.
Non, mais encore une fois, du coup, quand on essaye de faire abstraction des autres versions, de ce que d'autres chefs ont pu faire, et qu'on se dit, bon, alors qu'est-ce qu'il me propose? Bah, je trouve qu'il propose une version ample, mais très nourrie, avec un véritable souffle, comme on l'a déjà dit au début de saison, quand on parlait de son Tristan. Et en même temps, il y a une énorme précision. Tous les pupitres et les solistes sont mis en avant, et il y a une vraie qualité de cet orchestre. Il est très attentif au plateau vocal. Et puis, certes, si l'ensemble, alors Emmanuel parlait de empesé, moi je dirais d'ample, si l'ensemble est ainsi, il y a une énergie qui est à trouver dans les contre-champs. Dans les contre-champs et dans les réponses et dans les fugatos qui sont, eux, très vifs.
Lucille, comment ?
Pour moi, c'est vraiment trop lent. Et puis, une lenteur qui, en plus, en effet, ce que disait Emmanuel, est très, il y a rien de saillant, il y a pas d'emphase, il y a rien de saillant. Vous disiez solennel, mais même pas, parce qu'il n'y a pas du tout d'effet de tension. Donc cette implacabilité qui pourrait être en effet celle du décor, elle n'est pas là à la fosse. Pour moi, c'est vraiment un problème. Et on va parler du plateau vocal qui est quand même magnifique. On en profite à peine, je trouve, de mon point de vue, parce que c'est trop lent. Et vous disiez une attention au chanteur. Moi, le soir où j'ai entendu l'ouvrage, Nicole Carr, par exemple, dans le rôle d'Elvira, vraiment, dans son deuxième air, par exemple, on sentait qu'elle souffrait au niveau du souffle.
Elle a des problèmes
c'est
aussi.
C'est difficile.
Hein. Moi, je trouve seulement ça.
Peut-être. Moi, j'ai beaucoup aimé, en l'occurrence, son interprétation d'Elvire, mais je trouve ça mais vraiment, vraiment trop lent. Ça, c'est difficile, même presque, de parler du plateau vocal. À ce rythme-là, j'ai énormément de mal à apprécier la voix et à apprécier les airs dans ce tempo-là.
Alors, côté orchestre, alors, moi, c'est pas tellement la lenteur, je disais tout à l'heure, quand je l'ai vu une matinée un dimanche, il y a 10 jours, c'est que j'avais l'impression qu'il manquait la moitié des cordes et qu'il y avait deux fois trop de cuivre. Alors, c'était très étrange, parce que vraiment, alors, du coup, ça ne décollait pas. J'ai regardé la captation sur France TV, le replay. Là, ça m'a semblé en place. Alors, est-ce que c'était, du coup, les prises de son, où étaient placés les micros? Mais c'était quand même très terne, moi, ce que j'ai entendu. Et alors, pour parler de choix, ça fait la transition avec le plateau vocal, peut-être d'une certaine façon. Le trio de la mort du commandeur, au tout début, Don Giovanni, Étienne Dupuis, ne chantait pas. Il marquait, j'ai l'impression qu'il se croyait à la générale. Pourquoi faire ça? C'est-à-dire que c'est un trio, c'est pas un duo, et c'était quand même extrêmement étrange. J'en ai parlé avec ma camarade Lucille Gaumont au bureau qui a entendu la même chose que moi, Charles Ardenne.
Ça, pour moi, c'est lié à un autre problème, entre guillemets, qui est le défaut d'une qualité, c'est la théâtralité. Parce que dès le début, on voit bien, que Von Hove, il leur demande de jouer avant de chanter. Ça m'a beaucoup posé problème, certes. Parce que, bien sûr, Emmanuel disait très justement que les récitatifs, c'est du théâtre, mais les airs aussi, et ils ont des accents, des souffles, qui brisent les lignes vocales. Donc, en effet, ça met du temps, notamment au début.
Ah, oui.
à se mettre en place. Ça, c'est un problème de la direction d'acteur, selon moi.
Oui, mais depuis.
Enfin, on connaît des chanteurs qui bougent beaucoup plus en scène et qui n'ont pas de problèmes vocaux.
C'est pas une question de se déplacer.
Ça bouge pas beaucoup.
C'est une question de la prosodie, des accents théâtraux et de l'articulation.
Bon, Eden Dupuis, allez, on fait un rapide tour quand même du plateau vocal parce qu'il est vraiment fort tard. Emmanuel Dupuis à nouveau.
Bah, Étienne Dupuis, en fait, de toute façon, il est comme
de
la
Dupuis plupart. Dupuis à Dupuis, oui.
Oui, voilà. Il est comme la plupart de ses collègues au sein de ce plateau. C'est-à-dire que, bon, c'est un bon chanteur, mais il est pas du tout inoubliable.
On n'oublie pas Peter Mattei, ça, c'est sûr.
Ben, voilà, c'est ça, exactement. Quand on a entendu Peter Mattei et son côté carnassier, bête fauve, je veux dire, là, on a un Don Giovanni très sage. Et puis, voilà, c'est à peu près la même chose pour tout le monde. Philippe Sly, lui également, c'est un bon baryton. Mais il a des problèmes de rythme et de justesse dans son air, l'air du catalogue. Nicole Carr, même problème. C'est une soprano qui a certes une certaine flamme, mais des problèmes de respiration. Elle, ce sont des problèmes de respiration. Elle a tendance à respirer un petit peu n'importe quand. Jacqueline Wagner.
Oui, il faut chercher. Hein.
Jacqueline Wagner qui chante Donna Anna. Alors là, c'est vraiment le maillon faible de la distribution. C'est une toute petite voix qui projette très peu. En revanche, il y a quand même un excellent commandeur de Einhanger avec une magnifique voix de basse. Et surtout un excellent Ottavio chanté par Stanislas de Barberac qui a tout un arc-en-ciel de nuances dans la voix. Et puis pour moi, celle qui domine vraiment le plateau, c'est Elsa Dresige, qui a une sensualité...
Zerline,
voilà, qui a une sensualité naturelle, sensualité physique, sensualité vocale, elle est absolument craquante.
Alors maintenant, vous avez fait tout le plateau, un commentaire peut-être rapide de vos camarades de jeu ce soir, Lucille Como,
bah, je reprends
pour finir.
La dernière occurrence, moi Zerlina, je suis pas aussi enthousiaste que vous, mais je trouve que c'est une grande chanteuse. Moi, je préfère les Zerlines plus piquantes et plus légères, mais...
Oh non, pas du tout. Moi, je vais vous dire, je préfère les Zerlines plus mezzo, parce qu'en fait, c'est un rôle de mezzo, c'est le rôle le plus bas de la partition. Zerline n'est pas une soubrette, je suis absolument désolé.
Bon, vous débattrez après l'émission. Charles, pour finir.
Oui, Zerline, très bien, radieuse, elle amène justement même une touche de couleur, en effet, bienvenue dans cette mise en scène. Moi, j'ai beaucoup apprécié le duo masculin principal, donc Don Giovanni Leporello, notamment Philippe Sly en Leporello. On voit qu'il est habitué à chanter l'autre rôle de Don Giovanni, comment il rentre comme un double dans sa voix. C'était assez fascinant. Son air du catalogue, justement, il a tout compris à la mise en scène et aussi à cette partition. Dans la fin de l'air où il insiste sur la cruauté, parce que le catalogue, c'est oui, Don Giovanni a séduit tout le monde, mais il aime surtout les jeunes.
Don Giovanni, Mozart, pardon, dirigé par Philippe Jordan, mis en scène Ivo Vanov, c'est à l'Opéra de Paris, Palais Garnier, jusqu'au 13 juillet, et puis c'est un opéra qu'on peut voir en replay sur le site de France Télévisions, cette production jusqu'au 19 décembre prochain. À suivre dans la dispute, Madame Favart, Barbe Bleue, et des conseils pour les festivals de cet été.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Deux Offenbach à suivre donc. Le premier dont nous parlons maintenant, c'est Madame Favart, dirigée par Laurent Campellone, mise en scène Anne Kessler jusqu'au 30 juin à l'Opéra Comique. Opéra Comique donc en trois actes de Jacques Offenbach, livret d'Alfred Durie et Henri Chivot, créé aux Folies Dramatiques le 28 décembre 1878. Intrigue qui repose sur la vie réelle de la célèbre actrice Justine Favart et de son mari, auteur, directeur Charles Simon Favart. Intrigue imaginaire, mais à partir de personnages réels. On va y revenir. Sentiments sur cette production, Emmanuel Dupuis ?
Je trouvais ça bien fait, bien mené, mais un peu trop sage.
Charles Ardel.
Un écheveau décousu, aussi bien l'œuvre que la mise en scène. Heureusement qu'il y a la musique.
Lucille Como.
C'est joli.
Alors, c'est joli, et ça parle de quoi, Lucille Como ? C'est quoi l'histoire de cette Madame Favart ? Bon, alors, la version synthétique, alors je sais, je ne vous ai pas gâté là.
Alors, on est à Arras. dans une auberge au départ. Donc, arrive un major, le major Cotignoc, et sa fille Suzanne. Lui, il veut marier sa fille à celui qui deviendra le lieutenant de police local. Sauf que Suzanne, elle est déjà amoureuse d'un certain Hector qui la suit de près et qui entend lui-même, du coup, briguer ce fameux poste pour lui-même. Il se trouve que dans cette même auberge se planque un certain monsieur Favard, qui est auteur dramatique de son état. C'est un personnage qui a vraiment existé. Poursuivi par le maréchal de Saxe, une sommité qui lui poursuit sa femme, la grande comédienne Madame Favard, de ses ardeurs. Tous ces couples contrariés se croisent, ils se déguisent les uns en les autres, ça n'arrête pas. Le tout pour parvenir à vivre heureux dans les couples qui sont prévus. Donc ça ressemble quand même à un grand vaudeville avec de multiples quiproquos qui mènent jusqu'à une fin en apothéose dans un camp militaire, en présence du roi Louis XV lui-même, et qui verra la consécration de Madame Favard et de son mari.
Bon, alors, visuellement, Emmanuel Dupuis, quels sont les choix de cette production ?
Alors, quand le rideau se lève, on découvre un grand atelier de couture avec des machines à coudre.
Ça les fait rire. Moi, je ne l'ai pas vu encore, cette production, mais mon camarade rigole.
Hein. Oui, je vois pas ce que ça doit. Enfin,
c'est bon. Pas.
Donc, un atelier de couture avec qui est ceint de passerelles en hauteur. Il se trouve que cet atelier de couture, c'est la reproduction de celui de l'opéra comique actuel.
Salle Favard.
Voilà, sauf que.
Rappelons-le.
Sauf c'est que, petite précision, rien ne nous l'indique
rues Favard.
C'est une bonne précision.
Il faut lire le programme pour comprendre qu'il s'agit de l'atelier de couture de l'opéra comique.
Eh bien, vous n'avez qu'à lire les programmes.
Ouais, mais enfin.
Moi, je ne lis jamais, c'est très mal
non,
de dire
ben,
ça.
Si,
ni avant, ni après.
Quand il faut un mode d'emploi pour comprendre un spectacle, c'est qu'il y a peut-être un petit problème. Bref.
C'est souvent le cas.
Donc, toute l'action se passe dans cet atelier de couture, hormis la fin qui, elle, se passe dans le foyer de l'opéra comique, que là, pour le coup, on reconnaît très aisément.
Alors, entrons dans la dispute. Et je vous donne la parole dans un instant, Charles Ardenne, mais c'est Lucille Comeau qui va commencer, parce qu'elle n'a pas vu Barbe Bleue, donc vous parlerez tous les deux, messieurs. Lucille.
Non, mais on riait tous les deux, parce que c'est pourquoi absurde, en fait. Cet atelier de couture, ça n'a aucun sens. Mais vraiment aucun sens. C'est extrêmement faste en plus par ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes de machines qui montent et qui descendent, un rideau de tulle carré qui sert deux fois absolument à rien. Il y a des coursives avec un nombre de matériel et des rubans, des couleurs, des étoffes, ça balance dans tous les sens. Alors que donc c'est vraiment un vaudeville, donc ça se passe où ? Dans un milieu confiné où les portes claquent. C'est une pièce à machine où il faut des cachettes, il faut des plans.
Une machine à coudre.
Être dans, être dans se planquer dans une machine à coudre, c'est pas évident. Donc du coup, la mise en scène, en plus, elle a quand même besoin de ces artifices-là, parce que sinon, l'ouvrage ne fait pas sens. Donc, par exemple, à l'acte 2, qui est un acte où il y a une grande fête dans la maison d'Hector et de Suzanne, alors là, on place trois grands miroirs à pied, qui servent plus ou moins de porte. Alors, les personnages se cachent derrière, hop, ils font coucou sur le côté. Enfin, vraiment, il y a des moments où c'est absolument ridicule. C'est très gênant, le cœur est gêné, les acteurs eux-mêmes sont gênés, il y a des passages chorégraphiés qui n'ont absolument aucun sens. Je vous donne encore un exemple. Les invités de la fête, la fameuse fête, arrivent. Les femmes, les costumes sont années 50, années 60, comme d'habitude. Maintenant, de toute façon, tout le monde fait ça. Et donc là, elles ont sur la tête des perruques en barbe à papa, enfin un truc un peu du genre. Ça n'a aucun sens par rapport à l'atelier de couture global. En fait, si le biais de mise en scène, c'est simplement de nous dire « Ah bah oui, on se déguise, on n'arrête pas de se costumer parce que c'est un vaudeville et c'est comme ça que l'intrigue avance. » En fait, c'est déjà dans le livret, donc c'est pas une interprétation du livret, parce que c'est dit, en fait. Donc là, vraiment, il y a un gros problème de réflexion sur l'ouvrage. Après, peut-être que l'ouvrage n'est pas passionnant, mais c'est une deuxième...
Oui, on va aller plus vite là-dessus. Charles Ardenne.
Oui, bah, quand j'entendais mes deux camarades présenter l'une l'histoire et l'autre la mise en scène, j'avais l'impression que c'était deux spectacles différents. Et puis, il y a aussi l'autre spectacle vraiment en salle où je me suis ennuyé. Alors, certes, évidemment, l'opéra comique a eu une bonne idée de remonter cette œuvre parce que c'est parfait sur le papier pour les 200 ans d'Offenbach. C'est l'histoire de Madame Favard, donc la femme du directeur de l'opéra comique qui a donné son nom à la salle. Tout ça, c'est très bien, très très bien tout ça. Mais ils ont décidé de garder l'intégralité du texte parlé et joué, qui est insupportable, qui est pénible, qui est long, qui est lent. Le texte, ça consiste à quoi ? En quoi c'est les gens qui disent « Voilà, moi je m'appelle Monsieur Favard, voilà ce qui m'arrive, je suis obligé de me cacher en ce moment parce qu'il y a le méchant maréchal de Saxe qui en veut à ma femme. » Enfin, ils ne font que raconter qui ils sont, raconter ce qui se passe. Les couplets, c'est des sommets comme « C'est la lumière, c'est la flamme, mais son absence, c'est la nuit, c'est la nuit. » Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs.
Emmanuel Dupuis, est-ce que vous sauvez cette mise en scène, vous ?
Non, pas vraiment. De toute façon, bon, déjà, pour moi, il y a un problème de base. C'est que bon, Justine Favard, comme vous l'avez dit, c'est un personnage historique qui a réellement existé. Et moi, ça me gêne toujours quand on transpose à l'époque actuelle des personnages, des situations historiques réelles. Bon, ceci étant, alors c'est vrai que la dimension vaudevillesque est très atténuée. On n'a pas les portes qui claquent et les imbroglios en permanence. Donc tout ça est très lissé par ce décor unique imposant. Malgré tout, ça fonctionne parce que on a une direction d'acteur qui est assez loyale, assez fidèle au texte pour qu'on comprenne parfaitement ce qui se passe. Mais là où le bas blesse, et là je rejoins Charles, c'est que le livret n'est pas aussi génial que ceux de Méliac et Halévy. Méliac et Halévy qui ont été les librettistes des grands chefs-d'œuvre d'Offenbach, qui ont été aussi accessoirement les librettistes de Carmen. Là, c'est un livret qui est signé par Alfred Duru et Henri Chivot, et effectivement il comporte de longs dialogues parlés que l'on a préservés, et c'est un problème parce qu'à ce moment-là la tension retombe vraiment, parce que les chanteurs ne sont pas des comédiens. Ils font certes des efforts, mais on reste au stade d'une récitation presque scolaire, et ça c'est un vrai problème.
Écoutons un extrait de cette production, alors je le précise, un extrait enregistré lors de la répétition générale de Madame Favard.
Allons, va pour le mariage, mais quand le sabre bleu change, les soldats, je suis pris, non, je me souviens de ma promesse. Dépêchons-nous car le temps blesse, allons Benoît, allons toi, nous sommes à votre service, monsieur le lieutenant de police. Et votre carrosse est tout prêt. Ma bonne et mon valet, mettons-nous bien vite en voyage. À vous et nous ferons notre mariage.
Vite en voyage, vite en voyage, vite en voyage.
Cet extrait de Madame Favard à l'affiche de l'Opéra Comique en ce moment. Charles Ardenne, parlons musique, parlons plateau vocal, Parlons synthétique.
Oui, bah, l'exemple qu'on vient d'entendre montre, voilà, le Offenbach léger, enthousiasmant, les grands galops, les références à Rossini qui, moi, quand j'y étais, donc, était très bien assumé, très riche, très vivante avec la direction musicale de Laurent Campellone, mais aussi, il a une précision dans les intentions, dans la direction. Il y a un travail chambriste qui est très, très délicat, notamment sur le contrepoint des bois. Ça alterne. Et puis, bah, c'est un tel bonheur d'avoir ces musiques-là quand on s'est cogné 10 minutes de blabla insupportable et interminable. Mais il faut dire que les chanteurs mettent au service aussi bien des airs que des passages parlés la qualité de leur prosodie. Franchement, ça, c'était absolument admirable. Moi, j'avais l'impression de comprendre chaque mot. Alors, on ne sait jamais vraiment, parce que quand on a lu le texte avant, quand on le connaît, si c'est vraiment le cas. Et puis, moi, je donnerais un énorme coup de cœur à Anne-Catherine Gillet en Suzanne, la merveille du spectacle. Une voix riche, pleine, ample, souple et légère. Elle fait même le grand écart, voilà.
Lucille, comment ?
Oui, en fait, elle domine tellement, à mon avis, le plateau vocal que c'est parfois pas facile pour les autres en comparaison. Surtout qu'elle a une forme de grâce, d'équilibre total dans la voix entre la grâce et le burlesque que réussissent pas toujours les autres personnages qui parfois basculent dans l'un ou dans l'autre. Ont du mal à conserver les deux. Moi, de manière générale, je trouve que les femmes sont plus intéressantes que les hommes. Je les trouve un peu en dessous. J'étais à la première, il y avait des petits problèmes de placement. L'orchestre est en effet extrêmement vif et à nouveau très fin. Et c'est dommage, ça contraste énormément avec la mise en scène. Et le chœur, surtout parce que c'est un sacré travail, tous les chœurs sont extrêmement vifs, extrêmement rapides, et ça donne bien, même si en effet la mise en scène ne les favorise pas, ils savent pas quoi faire d'eux-mêmes, quoi. C'est gênant, mais ça chante bien.
Emmanuel Dupuis, enfin.
Oui, sur le plateau vocal, je rejoins à peu près ce qu'ont dit mes camarades. À Anne-Catherine Gillet, j'ajouterai Éric Huchet, qui joue l'ignoble marquis de Pont-Sablé et qui est aussi bon comédien que chanteur, qui maîtrise vraiment toutes les ficelles de l'opéra bouffe. Mais globalement, il n'y a pas de maillon faible dans sa distribution. Et en revanche, il faut souligner l'excellente direction musicale de Laurent Campellone. Madame Favart, c'est un des derniers ouvrages d'Offenbach, et il y a dans sa musique là un degré de raffinement qu'on ne trouve peut-être pas dans les ouvrages précédents. Et Laurent Campellone prend la pleine mesure de ce raffinement, mais en même temps avec beaucoup d'énergie, beaucoup de changements d'atmosphère, beaucoup de rythme tout simplement, et c'est très efficace et c'est même très réjouissant.
Cette production de Madame Favart est donc visible jusqu'au 30 juin à l'Opéra Comique à Paris. Et on reverra cette production à l'Opéra de Limoges les 3, 5 et 7 novembre et au Théâtre de Caen les 29 et 31 décembre 2019.
France Culture, La Dispute. Arne Laporte.
Le deuxième Offenbach de cette dispute, c'est donc Barbe Bleue, dirigé ici par Michele Spotti, mise en scène Laurent Pelli, à voir à l'Opéra de Lyon jusqu'au 5 juillet. Il s'agit cette fois d'un opéra bouffe en trois actes et quatre tableaux sur le livret d'Henri Meillac et Ludovica Lévy, créé aux variétés en 1866. Barbe Bleue est créé dans la continuité de la Belle Hélène, quelques mois avant la vie parisienne. Autant dire que c'est une période faste, évidemment, pour Offenbach. On comprendra assez vite que c'est une parodie du célèbre conte et que le Barbe Bleue de Meillac et Halévy offrait pour leurs contemporains, nous dit-on, des ressemblances assez évidentes avec Napoléon III. Résumé de l'intrigue, Charles Ardenne.
Alors, comme vous l'avez dit, Barbe Bleue, c'est certes une référence au fameux conte immortalisé par Perrault, puisqu'on a bien évidemment un seigneur ogresque, riche, puissant, qui cherche une nouvelle femme, puisque les précédentes ont disparu. Mais franchement, les liens s'arrêtent à peu près là, avec l'opéra bouffe d'Offenbach. On est face à une toute autre histoire, un autre esprit. Contrairement au conte, là, c'est pas du tout centré sur Ariane. Il n'y a même pas d'Ariane, en fait. On s'intéresse vraiment à Barbe Bleue, qui est un Don Juan, là, ici, en fait. Qui est même plus Don Juan que le Don Giovanni de Vanhoef. Bref, fermons la parenthèse. Qui cherche donc sa nouvelle femme. Pour ce faire, il a l'aide de son alchimiste, dont on va apprendre en fait que c'est lui qui se débarrasse, mais pas tout à fait, des femmes précédentes. L'alchimiste organise un tirage au sort. Le sort tombe sur Boulotte. On cherchait une femme vertueuse, mais pourtant Boulotte, elle assume crânement ses pulsions et ses passions charnelles. Tout ce beau monde va à la cour du roi Bobèche. Il y a plein d'enjeux, mais vous inquiétez pas, tout est bien qui finit bien.
Alors, Laurent Pellissigne, comme à son habitude, mise en scène et costume de cette production de Barbara Blood of Offenbach, ça ressemble à quoi, Emmanuel Dupuis?
Alors, on a des décors qui jouent vraiment la carte du grand spectacle. En fait, on a trois décors différents. Tout d'abord, une cour de ferme avec un hangar en tôle rouillée, un tracteur, des bottes de foin. Ensuite, à l'acte suivant, on est dans un salon royal avec ses dorures. Puis, dans un souterrain sordide où Barbe Bleue enferme ses épouses. Tout est représenté de façon assez réaliste, avec un côté un peu cartoon aussi quand même. Et puis il y a une originalité dans ces décors, c'est qu'ils sont agrémentés de une de journaux géantes, sans doute pour souligner le côté actuel de la transposition. Bon, par exemple, au premier acte, quand il est question des crimes de Barbe Bleue, on voit des unes de presse association du genre de détective ou ce genre de choses, vous voyez. Et puis ensuite, dans le Palais Royal, on a plutôt des unes de presse mondaine, façon, point de vue, image du monde.
Pour changer un petit peu dans cette émission, on va d'abord écouter un extrait de cette production avant que vous n'en parliez, messieurs, parce que hein, c'est le Como et moi non plus n'avons pas fait le voyage à Lyon, donc on va vous écouter. Mais d'abord, on va écouter l'air d'entrée de Barbe Bleue.
Je suis Barbe Bleue.
Barbe Bleue en ce moment à l'Opéra de Lyon et jusqu'au 5 juillet. Il sera d'ailleurs aussi donné plus tard à l'Opéra de Marseille en fin d'année, hein, du 28 décembre au 5 janvier, cette production. Emmanuel Dupuis, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Dans la mise en scène, on a un peu les indications que vous avez données. Laurent Pelly, c'est quelqu'un qu'on aime plutôt bien.
Oui, et ce spectacle confirme qu'il y a une véritable alchimie entre l'humour d'Offenbach et le talent de Laurent Pelly. Ça, on le savait déjà, mais là, ça se confirme. Bon, pour résumer, c'est un spectacle extrêmement réjouissant. Et le vent de folie qui nous manquait dans Madame Favart, là, on l'a, et on l'a tout le temps. Il y a une dérision permanente, un mouvement permanent aussi. Laurent Pelly fait l'effet de Barbe Bleue, une sorte de kéké parvenu qui roule en limousine, qui a un look totalement improbable. Bon, moi, il m'a fait penser à Cyril Hanouna.
Ça doit être fait pour, alors.
Je pense que c'est sûrement fait exprès. Et Yann Beuron est méconnaissable, mais absolument impayable. Absolument impayable dans ce rôle-là. Alors là, pour le coup, on sait que Laurent Pelly, pour les dialogues, travaille toujours avec Agathe Mélinan, qui réécrit et surtout condense les dialogues. Là, ça a été fait, ça a été bien fait. On ne sent pas les coutures. D'autre part, on a un livret qui est très réjouissant, c'est plein de sous-entendus sexuels, plein de sous-entendus politiques également. On se demande comment ça a pu passer l'épreuve de la censure à l'époque du vivant d'Offenbach. C'est du grand spectacle assumé et qui joue à fond la carte de la loufoquerie, et c'est un pur bonheur.
Charles Ardenne.
Complètement. Moi, franchement, j'ai pas boudé du tout mon plaisir. C'est un conte de fées, vraiment, et c'est un conte de fées aussi sur la scène. Tout est impeccable. On connaît Laurent Pelly, mais à chaque fois de voir la précision méticuleuse de son travail, évidemment les chœurs sont fantastiques dans leur déplacement scénique. Il leur fait faire des mouvements de symétrie, de dissymétrie. Ça colle, mais parfaitement, notamment pour les scènes dans le palais, avec des scènes qui deviennent mémorables, comme la scène des courtisans où le roi, en effet, qui est un roi ubu. Inconcevable que ce soit passé à l'époque, vu l'attaque que c'est pour Napoléon III, vient mesurer l'angle des courbettes des courtisans. Il y a des airs et des mélodies absolument fantastiques. L'air du la valse des baise-mains, où il y avait les petits bisous qui ponctuent comme ça les fins de phrase. D'une certaine manière, même si j'avais un bémol, ce serait de dire que le système Pelly, il marche tellement bien, il marche trop bien, que moi, par contre, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, j'ai pas vu le côté de côté grinçant, de côté froid. C'est quand même l'histoire d'un serial killer.
Oui. Alors, tout à l'heure, vous avez loué la direction de Laurent Campellone. Qu'en est-il pour Michele Spozzi dans cette production? Charles, en continue.
Absolument exceptionnel. Enfin, vraiment, moi, j'en revenais pas. On m'avait chanté ses louanges d'un concours qu'il avait fait. On m'a dit vraiment, ce chef incroyable. Bon, je me méfiais. Je suis arrivé. J'ai été scié, quoi. Vraiment, c'est le type de nom. Désormais, maintenant, j'irai à un concert juste pour l'écouter lui. Vraiment, du début à la fin, il y a une énergie, une précision, un geste, un élan. Il y a tout. Vraiment, il y a tout.
Et vous, Emmanuel Dupuis, conquis aussi?
Oui, j'étais totalement conquis également. On retrouve d'ailleurs des qualités assez comparables à celles que montrait Laurent Campellone dans Madame Favart. Beaucoup de précision et en même temps beaucoup de rythme, beaucoup de vivacité tout le temps. C'est plein d'esprit également, et ça répond tout à fait à ce que l'on voit sur scène. C'est très, là aussi très réjouissant.
Bon, bah écoutez, vous donnez très envie d'aller à Lyon. Il faut le faire d'ici le 5 juillet pour aller voir cette production de Barbe Bleue d'Offenbach. Et sinon, on peut se rattraper en fin d'année. Je ne sais pas si le plateau vocal sera exactement le même, on peut l'espérer. À l'Opéra de Marseille, du 28 décembre au 5 janvier, pour découvrir ce Barbe Bleue.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
C'est l'heure des conseils. Bon, il reste 5-6 minutes, on va aller vite pour vous suggérer, peut-être, dans les nombreux festivals musicaux cet été en France et peut-être aussi en dehors de nos frontières, quelques conseils. Qui a envie de commencer? Lucille Gomo, vous allez...
Bah, conseil, c'est grandir, parce que moi, je vais pas...
C'est grandir.
C'est beaucoup dire. Les festivals. Bon, disons, moi je vais à Aix-en-Provence au festival d'Aix, et j'ai très hâte de voir le Requiem de Romeo Castellucci.
Requiem de Mozart, donc.
Voilà, par Romeo Castellucci.
Mise en scène.
Oui, tout à fait. Parce que mise en scène, j'avoue que je ne vois pas ce que ça peut donner. Bon, Romeo Castellucci, ces dernières années, travaille beaucoup la forme de l'oratorio. Mmh. On a vu cette année notamment un Il primo omicidio de Scarlatti qui était particulièrement intéressant. intéressant du point de vue spatial, c'est-à-dire que la première partie se passait presque uniquement dans la fosse et la deuxième partie était très très scénique. Donc là, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec un ouvrage qui repose sur un grand orchestre, un énorme chœur et quatre solistes qui, pour le coup, ne sont pas des personnages. Dans l'oratorio, on a quand même encore des personnages. Donc la mise en jeu et mise en espace de l'ouvrage me rend très curieuse et avide.
Charles Ardenne.
Les festivals, c'est l'occasion de faire le tour de France, d'Europe. Il y a des choses mais incroyables absolument partout. Mais alors, s'il fallait choisir un seul spectacle, allez.
Un ou deux. Un pour commencer.
La symphonie des Mille de Gustave Mahler au Corégie d'Orange. Donc la symphonie numéro 8. Parce que c'est mis en avant comme l'événement du 150e anniversaire de ce festival, donc qui est souvent présenté comme le plus ancien festival. Et en effet, vu l'affiche, vu les gens qui vont défendre ça s'annonce comme un grand événement. D'ailleurs, ça pourrait être suivi en direct le 29 juillet à 21h30 sur France 5 et France Musique. C'est l'occasion de réunir les quatre formations permanentes de Radio France dans cet immense lieu pour cette immense œuvre. Et vraiment, ça a pas manqué parce que cette œuvre, elle réussit le miracle, je dirais, d'avoir un matériau, une énergie, un souffle à la hauteur de son enjeu, de son projet titanesque qui rivalise dans l'ambition, j'allais dire, du génie post-romantique avec Beethoven, avec la 9e.
Beau conseil, en plus partagé à la télévision. Lucine, vous voulez dire un mot de plus? Ah non, pardon, je croyais que vous serez devant votre poste ou pas à ce moment-là. Emmanuel Dupuis, quelques conseils?
Alors pour moi, un festival, c'est un endroit où on voit et où on entend des choses que l'on ne voit pas, que l'on n'entend pas le reste de l'année. Et pour moi, le festival qui correspond le mieux à cette définition aujourd'hui, c'est le festival de Salzbourg. C'est une véritable usine à musique et usine à opéra. Et cet été, parmi d'innombrables propositions, on verra notamment deux ouvrages rares. Tout d'abord, la Médée de Cherubini dans la version originale française qui est très peu donnée. Ça sera dirigé par Thomas Engelbrock et mis en scène par Simon Stone. Et on verra encore plus rare l'Œdipe d'Enesco, dirigé par Ingo Metzmarer, qui nous a fait forte impression récemment dans La Lady Macbeth de Shostakovich à l'Opéra de Paris. Et c'est Hachim Preyer qui assurera la mise en scène. Voilà, ces deux spectacles seront donnés à Salzbourg du 2 au 24 août. Et figurez-vous qu'il reste encore des places, donc il est encore temps de programmer son voyage en Autriche.
Lucille Como, un petit post-scriptum de conseil?
Non, bah, j'attends Ivo Vonov au tournant aussi, parce qu'il va donner un grandeur et décadence de la ville de Mahagoni de Kurt Weill, donc complètement autre chose.
Aussi à Aix-en-Provence.
Donc là, voilà, aussi à Aix-en-Provence, sous la direction de Esa-Pekka Salonen. Donc là, je l'attends vraiment là.
Bon, il y aura Salonen de toute façon dans la fosse. Donc, de toute façon, vous pourrez peut-être éventuellement fermer les yeux. Charles Ardenne, alors s'il fallait en choisir deux, le deuxième, ce serait
Ce serait Ferval de Vincent Dindy au festival Radio France Occitanie. Ah, mais j'ai pas fait exprès de défendre la maison. C'est pas fait exprès. Parce que Ferval de Dindy, déjà pour la redécouverte de cet opus. Et puis pour le casting, Michael Spiers, Gaël Arquez, Jean-Sébastien Bou. Rien que ça, ça fait rêver. Gaël Arquez, qui d'ailleurs est en ce moment dans une bouleversante Iphigénie en Tauride.
Mais ça, j'ai raté ça, je ne vais pas m'en remettre. J'ai raté Gaël Arquez dans Iphigénie en Tauride, qui est un de mes opéras préférés.
Vous pouvez y aller encore.
Robert Carsen, c'est bien ou pas, là? C'est mise en scène. J'aime beaucoup Robert Carsen aussi, mais des fois, c'est un peu moins bien.
Ah, c'est fantastique. Moi, j'étais en larmes la moitié du spectacle.
Il faut que je me débrouille. Bon, et vous vouliez ajouter un tout petit mot, Emmanuel Dupuis?
Oui, il faut quand même préciser que un des grands événements du festival de Salzbourg, j'y reviens, ça sera aussi l'Idoménée de Mozart, mise en scène par Peter Sellars et dirigé par Theodor Currensis.
Le chouchou de Lucille Como. Mais là, votre chouchou à vous.
Là, malheureusement, la billetterie a été prise d'assaut, donc impossible de trouver des places.
Et il avait déjà fait une mise en scène d'Idoménée.
Ils ont collaboré tous les deux, d'ailleurs, il y a deux ans, sur la Clémence de Titus. D'accord. Donc c'est un petit peu la suite.
Ah oui. Bon, voilà, des billets de train, des billets d'avion. De partage de voitures pour aller dans les différents festivals. Et avant de conclure le jeu de la dispute, parce qu'on peut aussi gagner, grâce à notre jeu chaque soir, de jolis cadeaux. Hier soir, la question était, Joséphine ?
Quel film de Teresa Villaverde, présenté à Cannes, permit à la cinéaste d'être reconnue internationalement ? Et la réponse était Os Mutantes.
Joséphine Dumoulin qui nous a rejoint. Je dis Joséphine, mais tout le monde vous connaît en même bien. Temps. Ce soir, des invitations à gagner pour aller voir une exposition Cabinet de curiosité. C'est au fond Hélène-Édouard Leclerc pour la culture. C'est à Landerneau jusqu'au 3 novembre. Quelle est la question ?
Quel plasticien metteur en scène, exposant actuellement son travail à Paris, présente son cabinet de curiosité au fond Hélène et Édouard Leclerc ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin, prise de son Jean-Guilain Meige, réalisation Alexandre Fougeron. Demain, à 19h, une dispute consacrée aux arts plastiques en compagnie de Sally Bonne, Anaël Pijat et Frédéric Bonnet. Nous parlerons de l'exposition Sally Mann. Il y a un passage au jeu de paume. Wright Morris, l'essence du visible, c'était la fondation Henri Cartier-Bresson. Erwin Olaf, Palm Spring, à la galerie Rabouin-Moussion. Et puis là aussi, des conseils pour les expositions à voir cet été.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Attention, canicule. Des risques existent pour votre santé, le coup de chaleur et la déshydratation. Tout au long de la journée, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau et mangez en quantité suffisante. Mouillez votre corps tout en assurant une légère ventilation et passez du temps dans un endroit frais. Pensez à prendre régulièrement des nouvelles de vos proches. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Et votre soirée sur France Culture, à écouter au frais. Cette soirée vous est racontée par Joséphine Dumoulin.
À 21h dans Par les temps qui courent, Marie Richer recevra la metteuse en scène Pauline Bureau. Juste avant cela, 20h55, les carnets de la création d'Aude Lavigne consacrés à la réalisatrice Julie Allion. 20h30, les fictions de France Culture vous proposent le deuxième épisode de Géographie du Purgatoire, une traversée des Andes d'Anne Cibran. Réalisation Laure Egoroff. Et tout de suite, à voix nue.